Actu SF, les podcasts.
Bonjour les courageux. Donc, nous allons avoir le plaisir de faire une petite table ronde présentation de Patrice Kilofer, que voilà. Et on l'applaudit. Enlève ton sac.
S'il te plaît.
S'il te plaît.
Bon, déjà, je fais ce que je veux. Et j'enlèverai mon sac même, donc je le garde.
C'est vrai ? Bon.
Ça cache mon ventre.
Bon, alors, ok. Alors, du coup, bon, on va tout de suite commencer par les désobligeances. Tu es né en 1966 et tu es. Moi non plus. En plus, je suis plus vieux.
C'est nécessaire le micro ou tout le monde m'entend ?
Pour l'enregistrement.
Et c'est enregistré, je veux faire attention à ce que je vais dire.
D'accord. Bah, c'est ça le problème, ouais. C'est moi aussi. Alors, tu es dessinateur, scénariste de BD, co-créateur de l'association.
Je ne suis pas scénariste, je dirais que je suis auteur.
Auteur.
Parce que je n'ai jamais fait de scénario pour quelqu'un d'autre que moi, c'est vrai.
Mais c'est vrai que tu racontes des histoires pour toi.
Oui, je peux raconter une histoire, inventer une histoire, ouais.
Donc, du coup, tu as co-créé l'association.
Oui,
tu fais partie de Loup Bapo, oui, depuis sa création.
Oui, également. Mais je me suis mis en disponibilité, là. Je suis en vacances de Loup Bapo.
C'est vrai ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que je me suis fâché avec des gens. Voilà.
D'accord.
Des gens qui font partie de Loup Bapo. Je ne suis plus trop copain avec Lewis Trondheim, ni avec Gilles Simon, ni avec Loup Bapo, c'est tout.
Lewis, c'était l'association aussi.
Oui.
Ouais. Quant à bon, Gilles, évidemment, il est carrément le créateur de Loup Bapo.
Il est co-créateur, oui. Et oui, la bande dessinée n'est pas une grande famille où tout le monde s'aime. Et non, ce sont des êtres humains également qui...
Non, en fait, ça s'appelle juste une grande famille, même une famille tout court.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est comme ça dans les grandes familles, voilà. Ou dans les familles toutes courtes.
Il y a toujours le cousin, la nièce, le frère.
Ah, la nièce, je la supporte pas.
Voilà.
Ah.
Une horreur. Et alors, comment est-ce que tu t'es retrouvé être co-créateur de l'association ?
Bon, par connaissance, ami commun. C'est Jean-Yves Duhaut, avec lequel j'ai fait, qui est lui-même auteur de bande dessinée, avec qui j'ai fait une partie de mes études. Quand je suis arrivé à Paris, en 1981, j'avais alors 15 ans, en même temps que Mitterrand, tenez, et pour faire une école d'art appliquée, l'école du Perret. C'était génial parce qu'à l'époque, on pouvait entrer dès la seconde dans cette école. Oh, il y a Jérôme. Ah, il y a Dominique. Pardon, excusez-moi. Et qu'est-ce que je disais ? Ah oui, Jean-Yves
Duperré.
C'est lui qui a rencontré Menu et toute cette bande-là. On a fait une partie de nos études à Duperré. Et lui a trouvé du travail dans un canard qui s'appelait Hebdogiciel, dont Carali était le directeur artistique. Carali, Paul Carali de Harakiri, entre autres. Et donc, il publiait pas mal de bandes dessinées, dont la petite bande de Menu de l'époque, Menu, Stanislas et Matt Conture, quoi. Les co-créateurs. Non, à vrai dire, le créateur et le co-créateur du Lynx, c'était la revue de Menu à cette époque, c'était Menu et Pierre Lamy, dit Polo, qui ensuite est devenu le chanteur qu'on connaît. Enfin, tout le monde ne connaît peut-être pas, mais le chanteur des Satellites d'abord, groupe de rock indépendant des années 80, puis en solo après. Voilà. Et donc Jean-Yves m'a introduit dans cette bande-là, quoi.
D'accord. Et donc il n'y avait rien à perdre, donc ok, on a créé l'association.
L'association, ça s'est créé après l'expérience de Labo. Mm. Je raconte l'histoire ?
Oui.
En 1990, ça date de 90 tout rond, Labo, c'est sorti en 90. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette maison d'édition fabuleuse dirigée par Robial, Étienne Robial.
Futuropolis.
Étienne Robial, le grand graphiste qui s'est occupé d'un tas de trucs, Canal+, M6, le PSG... que sais-je, qui voyait ses auteurs lui échapper, les jeunes auteurs notamment. Et il s'était renseigné sur la personne qui pouvait au mieux fédérer cette nouvelle génération d'auteurs au sein d'une revue, d'une publication. Et tout le monde l'a renvoyé vers Menu. qui effectivement est un éditeur dans l'âme et un meneur tout court. Et donc au bout de l'élaboration de Labo, ça a pris, je crois, 2 ans. Hein, ça a eu du mal à sortir parce que très vite. Bon, ils ont des personnalités assez fortes, Menu et Robial, et bon, ça a pas mal chauffé. Et d'ailleurs, il devait y avoir plusieurs numéros de cette revue qui, de fait, a fédéré donc toute notre génération d'auteurs. Et à la sortie du premier numéro de Labo et du seul numéro de Labo, on a tout de suite décidé de voler de nos propres ailes. On n'avait pas besoin d'un autre éditeur dans les pattes. Donc voilà, on a créé l'association dans la foulée, donc la même année, en 90.
Ouais. Te concernant, alors là, peut-être la caractéristique la plus évidente, c'est le fait que tu aies plusieurs styles. C'est-à-dire que tu sois un électron libre, c'est-à-dire que tu ne cherches pas à être enfermé dans une définition, dans un graphisme spécifique, dans un genre narratif spécifique.
Non.
C'est
comment tous les autres auteurs qui ont qu'un seul style, eux, ils aiment être enfermés.
Oui, mais voilà. Ouais. Pourquoi et comment en fait, surtout la difficulté, c'est comment tu y arrives, parce que ça signifie qu'il faut vraiment avoir plusieurs casquettes.
Mais je crois que tout le monde a plusieurs styles, mais les gens se retiennent.
Ou alors
il suffit de se laisser aller.
Ou ils l'ignorent.
Ou ils l'ignorent, ouais, peut-être. Non, mais c'est assez ancré dans l'esprit des gens qu'il faut avoir un style. Mais c'est en train de se tasser, d'ailleurs, toute cette histoire. Au début, c'était beaucoup plus évident que ça.
Même encore maintenant, il y en a qui sont très emmerdants, ouais, par rapport à ça. Je le vois en école d'art, il faut absolument avoir une étiquette, sinon on ne va pas réussir, parce que d'un point de vue commercial, tu vois, il faut avoir un label.
Ouais, non, mais quand je disais que c'était en train de se tasser, je parlais de moi, en fait. Je disais que c'était moins le cas. Avant, c'était plus marqué chez moi. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est très ancré dans les mentalités. Je me souviens d'une interview d'un auteur que j'aime beaucoup, Yves Chaland, qui est mort très jeune, où il raconte que quand il était petit, il voulait dessiner comme Moebius, il voulait dessiner comme Hergé, il voulait dessiner comme Franquin, il voulait dessiner comme tout le monde, tous les gens qu'il admirait, quoi. Et qu'un jour, il a décidé, il a réalisé qu'il fallait prendre une direction et pas plusieurs. Moi, j'ai toujours été contre ça. Je me souviens que j'étais scandalisé par ses propos, bien que j'adore ce qu'il fait. Et j'adore de plus en plus ce qu'il fait. Et un jour, j'ai regardé une de ses pages et j'ai réalisé que finalement, il l'avait fait. Il avait fini par dessiner à la fois comme Moebius, à la fois comme Hergé.
C'était une synthèse ?
Ouais, c'était une synthèse, exactement. Enfin, moi je retrouvais des artistes très, très divers dans cette page-là. Et il l'a fait malgré lui, quoi. Donc, il suffit de se laisser aller. Et les choses se font toutes seules. C'est comme chercher son style. Le style, par définition, comme disait l'autre, c'est l'homme. Et par définition, le style, ça se trouve quand on arrête de le chercher. Hein ? Si le style, c'est l'homme, vraiment. Si on cherche son style, il y a quelque chose de...
C'est artificiel, on n'y arrive jamais.
Ça n'a aucun sens de dire « je cherche mon style ». Le style, ça doit venir tout seul.
Ceci dit, il y a une définition du style que j'ai entendue un jour, je crois que c'était Tardy qui le disait, c'est que le style, c'est la somme de toutes les bidouilles qu'on a mis en place pour éviter de dessiner ce qu'on n'arrive pas à dessiner.
Ah oui, c'est une bonne définition.
Oui, je trouve aussi. C'est-à-dire, en fait, voilà, je ne suis pas bon pour les personnages, mais ce n'est pas grave, je suis bon pour l'espace. Donc, on va compenser. Ou alors, je ne sais pas dessiner les yeux, on va les foutre en forme de forme tout le temps. Là, je cite personne, genre par exemple. C'est un truc classique.
Mais disons que c'est oui bien sûr c'est la somme de nos maladresses, de nos
moments, voilà.
Mais bon, c'est une vision de la chose, hein. On peut attaquer la question d'un autre point de vue, hein. Et c'est ça qui est merveilleux en art, tout le monde a raison, hein. Personne n'a tort.
Ça me fait penser à de la philosophie. On est toujours d'accord avec la dernière philosophie qu'on a entendue, pratiquement.
Ah bon?
Oui.
Je suis pas du tout d'accord.
Non.
Non, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas d'école. Il y a un truc dont j'ai horreur, c'est quand... le truc de Chaland, quoi. Il faut avoir un style. Dès qu'on me dit il faut faire ceci ou cela, je commence par m'énerver, quoi. Là, t'as vu pour le sac. Je t'ai dit non, je fais ce que je veux. C'est pareil pour...
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'alternatives en même temps?
Non, mais je ne comprends pas qu'un artiste puisse dire il faut faire ceci ou cela, quoi. Toutes les écoles... Toutes les manières ont donné de bons résultats. C'est d'ailleurs pour ça que ça existe.
Justement, puisqu'on parle de style et de, en fait, de représentation de la personne, tu travailles avec des galeries et tu vends. Est-ce que la multiplicité des styles est un problème à ce niveau-là?
Ben, si c'est un problème, on m'a rien dit. Non.
Donc c'est bon.
C'est bon. Ouais.
D'accord, super. Ouais. Et ça rapporte?
Oui, bien sûr. Ben, cette année, j'ai vécu 4 mois. J'ai vendu 2 retables. Parce que ça... En anglais, exposition, ça se dit exhibition. Et j'en ai un peu... on vit dans un monde d'images, ça dégueule de tous les côtés. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu discret, quoi. Et puis, c'était un choc. Je suis allé à Herstedt-Bosch, la ville de Bosch, lors de son 500e anniversaire. Et j'ai compris ce que c'était, en fait, un retable. C'était un truc qu'on ouvrait à certaines époques de l'année. C'était un spectacle, quoi. Et le reste du temps... Pendant les fêtes votives, quoi. Et le reste du temps, c'était fermé. Les images n'étaient pas montrées. Alors que c'était une époque où les images, ça courait pas les rues, justement. Et je me suis dit, mais pourquoi je cachais une image alors que, justement, on est dans un monde où, à cette époque-là, on était dans un monde où il y avait peu d'images. Et bien, ça colle, c'est complètement raccord. En fait, ça aurait eu quelque chose d'indécent que de montrer cette image tout le temps. C'était un spectacle, vraiment, à l'époque... de montrer ce tableau, quoi.
C'était religieux, donc. Et ça m'a vraiment coïncidé avec les
faits. C'est pas seulement religieux, c'est c'était culturel, quoi. Et j'ai été vraiment touché par ça, et j'ai voulu essayer de l'expérience, quoi. Et d'ailleurs, ça a raté. Donc j'ai fait 2 retables. Il y en a un qui s'appelle le Jardin des Délices, justement, où j'ai repris le panneau central. C'est mon interprétation du Jardin des Délices. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en faisant le dessin, je suis assez fidèle au tableau. Dans la composition, disons. Et puis, je me suis planté. Et j'ai fait le dessin comme ça, en partant sur la gauche, en remontant et en arrivant sur la droite. Et là, je me suis rendu compte que c'était par accord qu'il y avait un vide au milieu, pile au milieu. Et là, j'étais dans la merde. Je me suis dit, mais comme j'avais été très fidèle à l'original depuis le début, je ne pouvais pas rajouter n'importe quoi pour boucher le trou. Et j'ai eu un moment de panique, mais qui s'est très bien fini, parce que je me suis dit, Kilo, t'es un peu con. Enfin, j'ai l'habitude de me dessiner, si vous voulez. Et j'étais là depuis 2 heures en train de me dire, mais mon Dieu, que vais-je pouvoir mettre au milieu de ce tableau?
Réponse, toi.
Eh oui, évidemment. Enfin, je veux dire, ça s'est fait tout seul, quoi.
Mais version Bosch?
Non, parce que c'est une réinterprétation.
Ah, bah oui.
C'est version Kilofer. Et les 2 panneaux latéraux, c'est un Kilofer. C'est dans un autre style. Le panneau central, c'est un style... c'est au crayon... un peu, avec des dégradés, des gris, un peu de bidouillage. Et les panneaux latéraux, c'est de l'encre, noir et blanc, sans gris. Et c'est un Kilofer qui arrose sa plante avec mon pot berger. C'est autobiographique. Hein, j'avais un rosier sur le balcon et je l'arrosais avec un pot berger. Donc c'est le jardin, c'est le paradis, hein, comme chez Bosch. Dans l'œuvre de Bosch, c'est Adam et Ève plus Dieu dans le paradis. Dans le jardin d'Éden, et l'autre panneau, c'est l'enfer, et chez moi, c'est la même image, c'est Kilofer sur son balcon, sauf que là, c'est Kilofer qui boit et la plante est morte, ce qui est vrai d'ailleurs, je bois et la plante est morte, enfin bon, bref. Et l'autre panneau, ça s'appelle l'origine du monde, et j'ai dessiné un énorme caca sur le panneau central. C'est pas du tout parce que je suis très le caca a longtemps été ma... Je suis très sérieux, hein, en fait. Ma vache à lait. J'ai longtemps donné dans le caca, artistiquement. Je veux dire, j'en ai pas mal dessiné. Hein. J'ai fait un livre d'ailleurs pour mon seul livre pour la jeunesse qui s'appelle Léon.
Ouais. Alors justement,
c'est un poème. Je vais peut-être pouvoir le déclamer tout à l'heure. J'ai pas fini. Et je suis un peu saoulant, non? Moi, je me saoule un peu. Et les panneaux, donc c'est un caca, mais un beau caca, hein, vraiment très structuré, puis très fouillé. C'est un caca que j'ai vraiment gratté pendant des semaines, c'est plein de détails. Et les panneaux latéraux, c'est donc là encore dans un style bande dessinée, comme ça. C'est un Kilofer qui ouvre une porte, qui rentre dans une pièce, et l'autre panneau, c'est le même Kilofer qui sort de la pièce. Voilà. Et j'ai vendu donc ces 2 pièces, et je voulais qu'elles soient exposées fermées. Avec un petit cartel qui aurait indiqué aux gens de d'ouvrir le truc et puis de le refermer quand ils ont fini de regarder. Parce que je voulais un rapport comme ça, de, plus intime quoi, avec l'œuvre. Et puis, j'aime bien l'idée que les gens touchent un peu les œuvres. On ne peut jamais toucher les œuvres. Et moi, ça me frustre en tant que spectateur. Et là, avoir la permission. Et puis, cette discrétion, quoi, quand même, cette mise à distance. Et puis, je ne sais pas, je pensais qu'on pouvait avoir un moment d'intimité, de vraiment un seul spectateur à la fois. C'est pas mal. Mais ma galeriste n'a pas eu les couilles. Il faut bien l'appeler un chat un chat. De l'exposer comme ça, donc elle l'a exposé ouvert. Et tout ça, c'était pour répondre à la question, est-ce que ça rapporte ? Alors, elle a vendu les deux retables 8000 euros pièce.
Ah oui, quand même.
Et moi, j'en ai touché que 4000 par retable. Hmm. Mais bon, ça m'a fait vivre 3-4 mois cette année, quoi.
Léon Létron se désespère de n'avoir du succès qu'avec les mouches. N'ayant pas réussi à se faire passer pour du chocolat, il décide de se suicider.
Ah oui, mais ça c'est le texte.
Ouais.
C'est pas le texte original. Ça c'est le texte original est un poème avec des rimes.
Oui oui. Non, c'est pas l'intégralité du texte. Oui.
Ah non, c'est même pas c'est même pas un extrait du texte. Ça c'est le.
Ça c'était la quatrième. C'était mis sur la quatrième,
oui,
il me semble.
D'accord, ouais. Okay.
Ça a été facile de le vendre à un éditeur, sachant que c'était effectivement, comme tu l'as dit, un livre pour enfants.
Oh bah c'est un grand classique, le caca, pour les livres pour enfants. Hein.
Certes.
Il y a la taupe qui faisait caca, il y en a plein des livres sur le caca pour les enfants. C'était une commande, en fait. C'est un ami que j'ai rencontré. J'étais en Bretagne, en vacances, et il dirigeait la collection, on s'est croisés. C'était l'ami d'une amie avec laquelle je partais en vacances. Il m'a demandé un livre, je l'ai fait, puis voilà. Et je l'ai fait en une semaine, c'est arrivé tout de suite, comme ça, pouf, comme ça. J'allais dire. Et ça a tout de suite marché. D'ailleurs, il s'est très bien vendu. C'est un des rares livres où j'ai remboursé mon avance sur droit. Vous savez comment ça marche. Quand on signe chez un éditeur, il vous donne une avance sur droit, un peu d'argent qui correspond à la vente d'un millier d'ouvrages. Ça se négocie. Et là, c'est un des seuls livres où j'ai touché de l'argent après mon avance sur droit. Donc, c'est mon best-seller, je crois. Et effectivement, c'est un poème. Voulez-vous que je vous le dise ?
Oh oui, oh oui.
Allons-y. Léon Létron, un livre très marron, en caca mailleux. Il s'appelait Léon, c'est un joli prénom. Léon n'était pas laid, il avait du succès, surtout auprès des mouches, c'est ça qui était louche. Étron de son état, Léon était caca, ce qui est regrettable quand on veut être aimable. Comment trouver des potes appréciant la crotte, etc., etc. Tout est à l'avenant. Et c'est vrai que tu as spoilé. C'est vrai qu'il se suicide à la fin, en se jetant dans les toilettes, bien sûr. Mais je l'ai fait revivre pour la revue Pandora, la revue de Casterman, qui revoilà Léon, notre plus bel étron. Laissez-moi vous conter de Léon l'Odyssée, de Carie en Scylla, notre étron rencontra une superbe étronne. Cette grosse cochonne lui ouvrit peu farouche toute grande sa couche, mais elle était l'épouse d'une effroyable bouse. Léon, incontinent, quitta le continent. Alors je suis très fier de ce vers. Hein, une rime quand même en continent. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez la richesse de la rime. Une rime en continent. Qui dit mieux ? Je vous le refais. Léon, incontinent, quitta le continent. Et puis, dire le mot incontinent dans une histoire qui parle de caca, je trouve ça pas mal aussi. Hein, incontinent dans le sens immédiatement. Hein, tout le monde avait compris. Eh non, tout le monde n'avait pas compris. J'ai bien fait de préciser. Qu'est-ce qu'on disait ?
Que le graphisme de Léon, Léon le caca...
Létron. Ah oui, donc pardon. Je te coupe.
Vas-y.
Non, mais je l'ai fait renaître et j'ai bon espoir un jour d'en faire un recueil. Parce que j'ai refait une histoire de 5 pages et une autre de 9 pages avec mon premier... j'ai fait aussi une petite histoire pour les vœux de l'association. Enfin, je commence à avoir quelques pages de Léon et j'ai bon espoir qu'un jour ça paraisse Un recueil de ces histoires.
À la Pléiade.
Mais je suis un peu, je me sens un peu sec. J'ai plus d'idées avec Léon. Si vous avez des suggestions de Léon, des idées de Léon, je sais pas. C'est un peu, je suis un peu en panne. Sinon, ça
va. Il pourrait décider de faire un tour du monde en bateau.
Bon, on va passer à autre chose.
D'accord. Alors, le style graphique de Léon, Létron. C'est une chose. Après, il y a l'autre, les autres styles graphiques. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un clairement totalement différent qui est extrêmement graphique, un peu à la Josh Schwartz. Quels sont les... comment tu changes d'esprit, en fait, quand tu changes d'un, quand tu passes d'un, d'une technique à l'autre, d'un graphisme à l'autre ? Est-ce que tu le fais ? Est-ce que c'est décidé ? Genre, tiens, ce matin, je vais faire plutôt tel truc. Ou est-ce que c'est selon l'humeur, sans préméditation ?
Ça doit être ça. Non, mais je n'ai pas l'impression de changer. Y a certaines... comment dire ? Quand on fait quelque chose, tout vient... une idée vient avec, avec son image, quoi, un peu... C'est un truc que quand j'étais professeur, je racontais ça à mes élèves parce que j'avais un gros problème en tant que professeur d'illustration dans cette école. C'est qu'il y avait une autre prof qui était censée être là pour aider les élèves à accoucher de leurs idées, quoi. Sauf que la nana, ça dessinait pas, elle avait pas de culture visuelle. Enfin, elle avait peut-être une culture visuelle, mais elle n'était pas de la partie. Elle venait du théâtre. Donc j'avais des élèves qui venaient avec des superbes idées, super bien emballées, super bien tarabiscotées des fois, ou super simples. Mais je voyais dans leur regard une espèce de vide intersidéral. C'est-à-dire, donc je leur racontais qu'avoir une très bonne idée, c'est très bien, mais on ne fait pas de l'art avec des bonnes idées. Quand on veut faire de l'illustration, puisque c'était mon cours, il fallait avoir de bonnes idées d'illustration, mais pas des bonnes idées avec lesquelles on va faire une illustration.
Il fallait penser image.
Oui, c'est ça. Et avec cette prof-là, mais c'était un vrai problème. J'ai arrêté d'être prof à cause d'elle, quasiment. C'était un vrai problème parce que je devais faire accoucher...
C'était Alissa, non ?
C'était Alissa. Ouais. Et moi, je devais suivre des étudiants sur leur projet de fin d'études. Et ça commençait toujours... des fois, c'était dramatique parce qu'ils s'accrochaient à cette idée qu'ils avaient eue avec cette prof alors qu'ils étaient incapables de sortir une image avec cette idée, quoi. Et je les voyais s'enfoncer, c'était dramatique, c'était affreux à observer, quoi. Mais heureusement, le plus souvent, je réussissais à leur faire changer d'idée. Puis des fois, bon, ça collait. Ça arrivait quand même, heureusement.
Ça, c'était le problème, remarque, il existait encore, des écoles d'art qui sont allées vers le conceptuel et qui ont oublié d'aller dans la matière et vraiment d'en avoir plein les doigts. Ça a commencé dans les années 70 et ça a pollué. Et il n'y a pas qu'en France, hein, ça a été un peu partout. Ça a pollué les écoles d'art graphique.
Les écoles d'art graphique, ça reste quand même très dans l'image.
Oui, mais plutôt, j'irais dire, plus que les écoles d'art graphique, peut-être les écoles de beaux-arts. Ah oui. Savoir que là, on s'est retrouvé avec beaucoup de conceptuels et tout à coup,
Les gens
sortir le tube de peinture, je me rappelle très bien, parce que je suis passé par là. Sortir le tube de peinture, c'est était être un rétrograde méprisable.
Ah oui. Tous les gens... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'était quoi ce truc ? C'était un peu affreux. Oui, les gens qui... si jamais dans la salle, il y a des gens qui veulent dessiner, c'est pas aux Beaux-Arts qu'il faut aller, hein, c'est clair. Mais c'est un peu en train de changer, j'ai l'impression, non ?
Oui, peut-être. Ça commence à changer, parce que le problème, c'est que...
Il y a eu beaucoup d'abus dans le conceptuel.
Ça a duré 40-50 ans, cette connerie. Donc là, en ce moment, effectivement, il commence à changer, parce que tout simplement, au final, les gens ne trouvent pas de boulot, quoi. Parce que finalement, ils ont fait 5 ans aux Beaux-Arts, et ils se retrouvent à ne pas être tellement plus avancés au niveau...
C'est des écoles qui produisent des professeurs en
technique.
Non, ce qui est drôle, c'est aussi ce nom, l'art conceptuel, comme s'il y avait un art non conceptuel, quoi. Et maintenant, on a affaire à l'art contemporain. C'est vraiment des définitions qui ne disent rien, en fait, conceptuel, parce que tout art est conceptuel, il y a toujours une idée derrière. Et l'art contemporain, ça dit juste que c'est aujourd'hui, quoi, que l'artiste est vivant, hein, en fait. C'est des définitions qui ne disent rien.
Théoriquement, contemporain, c'est tout l'art depuis 45. Bon, alors après, maintenant, on est 70 ans plus tard. Mais donc,
tandis qu'avant, avant, ça racontait quelque chose. Je sais pas, le surréalisme, ça dit quelque chose. Même le dadaïsme, l'impressionnisme, ça dit quelque chose. Ça envoie des images, des signes, des significations. Mais contemporain et conceptuel, je vois pas. On peut tout mettre dedans, quoi, n'importe quoi. Ça rentre. Bah, par définition, art conceptuel, on peut mettre n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Hein, strictement n'importe quoi.
Même une banane accrochée au mur avec un scotch.
Et conceptuel, c'est pareil. Non, contemporain, il suffit d'être vivant. C'est pratique.
Ou
donc je fais de l'art contemporain. Chez Anne Barrault, où tu disais que j'étais exposé par des galeries, dans une seule. Anne
Barrault. Oui, il n'y en a qu'une seule, oui.
Mais sans doute que c'est pas parce que les autres ne veulent pas de moi. Hein. Bien sûr, elles se déchirent, mais il y a une espèce de contrat d'exclusivité, un contrat moral. Et d'ailleurs, il paraît d'ailleurs qu'on est les seuls à ne pas signer de contrat avec nos galeries en France, que la terre entière se fout de notre gueule pour ça. Non, c'est vrai.
C'est vrai ? Mmh. Bon. Alors, tu avais dit dans une interview que tu estimais avoir trois styles différents. Et tu les avais même pas mal codifiés. Ouais. Ouais, c'est encore d'actualité ?
Plus trop. Bah, y en a un que je fais plus du tout. Le truc avec des petits points et des petits traits, là, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué ça. Et je ne pense pas que je vais y revenir, a priori, mais je ne sais pas ce que me réserve l'avenir.
Donc, il n'y en aurait plus que deux, ou alors tu as rempli.
Ouais. Ça ne veut plus dire grand-chose pour moi, ces histoires de style, quoi, vraiment.
Tu ne veux plus compartimenter, en fait.
Et j'ai jamais voulu, et puis.
Ou en tout cas, analyser les différents styles.
Histoires de style, ça m'a toujours emmerdé. Quoi. On fait ce qu'on veut, et puis surtout ce qu'il faut au moment où il faut le faut. Quoi. C'est vraiment des questions que je ne me pose plus. Mais je sais que c'est... en tant que jeune auteur, oui, je me posais plein de questions sur le style, tout ça. On se force à dessiner d'une certaine manière. Oh mon Dieu, je fais un truc qui ressemble à Moebius ou à Willem. Que vais-je devenir ? Maintenant, ça ne me... Il ne faut pas se préoccuper de ça. Ça n'a aucun intérêt, en fait. En fait, c'est très chiant comme question que tu...
Ouais, mais je sais. Ouais. Ouais.
Alors ça, c'est un livre que j'ai fait avec Dominique Lestel. C'est ma dernière bande dessinée. Hein, on ne peut pas arrêter le truc. Hein.
Non, ça défile, mais on va parler de tout ça.
Ah bon ?
Ouais.
D'accord.
Bah, si ça t'intéresse.
Parce que ces questions de style, c'est un peu vieux, quoi.
Oui. Par contre, j'aimerais bien parler du gaufrier, parce que tu l'utilises pas mal.
Ouais.
C'est, parce que c'est vraiment en plus un truc qui a vraiment été, on va dire, remis un peu au goût du jour par l'association qui aime quelque part les formes classiques aussi. Et t'en as fait pas mal du gaufrier. Comment on l'organise ? Parce que bon,
quasiment que ça, en fait.
Bah oui.
En fait, j'aime pas.
J'ai trouvé que c'était quand même une caractéristique de ton travail. Hein.
Ouais, ouais. Ou alors, quand je fais pas de gaufrier, il n'y a pas de cases du tout dans ce cas-là. C'est soit pas de cases du tout, soit toujours les mêmes cases. Ouais. Et pourquoi ?
En fait,
je sais pas.
C'est ça. Comment t'y arriver ? Parce que là, quelquefois, quand on est dans une structure un peu répétitive, à un moment, on a envie un peu de péter la forme et puis de se dire oh puis merde, attends, je vais faire une case allongée. Et puis on, bon. Mais là, t'as vraiment un retour assez récurrent sur le gaufrier. Donc voilà, je voulais.
Je pense que c'est une question de rythme, quoi. C'est par exemple ma dernière bande dessinée. Donc elle sort d'un livre que j'ai fait avec Dominique Lestel, ici présent. Tu pourrais venir nous en parler éventuellement quand on en parlera, je sais pas. Ouais, oui, mais justement, comme ça me ferait des vacances. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est donc un jour, Dominique Lestel, ici présent.
Philosophe, théoricien de l'éthologie.
Ouais, de l'éthologie et c'est tout.
De l'éthologie philosophique, évidemment. Oui, et donc les machines insurrectionnelles.
Mais il se trouve qu'il m'a demandé d'illustrer son livre. J'étais un peu... c'est le genre de proposition à laquelle qu'on peut pas refuser. Hein, parce que ça n'existait pas jusqu'à présent, un livre de philosophie illustré. Enfin, si, ça existe, mais qui paraisse en première édition sous cette forme, illustré, ça n'avait jamais été fait, à ma connaissance. Si vous en connaissez, je suis tout prêt... Et donc, évidemment, j'ai dit oui. Et après, quand j'ai lu le livre de Dominique, j'ai été tenté par dire non. Parce que je ne voyais pas du tout comment illustrer ça. En fait, il n'y avait qu'une seule façon de l'illustrer. C'était en racontant une histoire, finalement. Une histoire qui illustre le propos, quoi. Mmh. Donc j'ai mis en narration les concepts que Dominique explore dans son livre. Et donc j'ai pondu une bande dessinée qui s'est retrouvée dans le livre disséminée, case par-ci, deux cases par-là, parmi le texte, qui est venu parasiter le texte. C'était vraiment le désir de Dominique. Hein ? Et dès que je dis une bêtise, tu te lèves, tu gueules, tu dis c'est quoi ce bordel, des trucs comme ça. Hein ? Et toi non plus.
Et sinon, alors, la collaboration entre vous deux, comment ça s'est passé ?
Ah ben, ça s'est pas passé. Il m'a donné son bouquin, je lui ai donné mes images, voilà.
Ah ouais ?
Ah oui, j'ai lu son bouquin.
Vous habitez pas dans la même ville ?
Oh non, mais on peut se voir facilement, non ? C'est pas la question. C'est vrai, Dominique, t'aurais aimé que je te montre les images au fur et à mesure, tout ça ?
Pas du tout, c'était la surprise.
Ouais, mais t'aurais préféré Ah ouais, ah d'accord. Mais c'est vrai que ça m'a pas traversé l'esprit, quoi, de te montrer le truc au fur et à mesure.
Non, mais c'est très bien.
Ouais. Ah, bonne question. Ça était bien.
Ah oui, ouais. Pas conceptuel, ça.
Ça me fait... Non. Si, tout est conceptuel.
Ah, mais non.
Oui, donc ça s'est pas passé. Je suis livré... Bah, c'est ça. Et ça, c'est mon dernier... Et alors, donc... Les images que vous voyez là, elles sont dans le livre avec Dominique, et mais disséminées, éclatées. Et j'ai eu envie de les réunir parce qu'il y avait vraiment un rythme. J'ai bâti les pages en rythme ternaire, quoi. Trois images à chaque fois. C'est des séquences en 3, 6, 9 images, quoi. Et donc le gaufrier, c'est ça, c'est une envie de rythme. Puis il y a un côté peut-être un peu cinématographique de jamais changer de cadre.
Ah, ça c'est vrai, oui,
peut-être, ouais. C'est vrai que c'est très différent hein, d'un truc à l'autre quand même.
Ben oui, je suis allé sur le net, j'ai récupéré tout plein d'images.
Qui l'offert, c'est tout faire, c'est ma devise. Il y a qui l'offert en la matière aussi, qui l'effort, qui l'offert, évidemment.
Alors justement, tiens, on a une énorme représentation de toi-même dans tes bandes.
Énorme, ça va. Je suis un peu replay, disons.
Non,
mais... finir sur le gaufrier, ouais, quand j'en ai marre du gaufrier, ben, je retire carrément les cases. Comme dans l'album 676 apparitions de moi, de
voilà,
Kilofer.
De Kilofer.
Voilà, c'est il n'y a pas de planche de 676 apparitions. Si, peut-être. Oui, quand le gaufrier m'ennuie, quand la case m'ennuie, bah je l'enlève. Quoi. Mais oui, j'aime pas les bouquins où il y a des petites cases, des cases allongées, des cases. Ça m'emmerde. Ah voilà. Ça c'était 676. Oui, pardon, je t'ai coupé.
Alors, non, bah on va continuer avec les collaborations. Comment tu es arrivé à travailler sur Infinity 8
Lewis m'a demandé.
C'est Lewis, j'ai dit ouais. Oui. D'accord. Parce que là, par contre, on arrivait sur un travail qui devait s'inscrire dans une continuité, parce qu'il y avait toute une série d'albums, même si chacun avait quand même un minimum d'autonomie, mais il y avait quand même des charges. Comment ça s'est passé?
Non, c'était un peu pénible. Alors c'est quoi ce truc-là, franchement? Non, mais c'est.
Qu'il doit faire en chien.
Ah, d'accord, c'est un truc de librairie. Ouais. Ok. La mystérieuse librairie, ça me dit rien. Oui, donc c'était un projet de Lewis Trondheim, Infinity 8, 8 albums.
Ouais.
Et moi, je venais clore la série. Donc c'était un peu chiant parce que j'avais aucune marge de manœuvre parce qu'il fallait recoller tous les morceaux. Mm. C'était l'album final et donc j'avais aucune marge de liberté et c'était un peu relou. Et puis il s'est passé un phénomène. C'est vrai que je me dessine beaucoup, mais aussi bien pour raconter des histoires autobiographiques que des trucs complètement fictionnels.
Oui, parce que tu es à l'intérieur d'Infinity.
Ouais. C'est pire que ça. Donc je me sers de mon apparence comme d'un personnage, quoi. En fait, c'est un jour, Charles Berberian, il est un peu plus vieux que moi, Charles, et à un moment, il me donnait de temps en temps, comme ça, des petits conseils en passant. Puis un jour, il me dit, quand t'arrives pas à créer un personnage, dessine-toi toi-même. Et je l'ai écouté, et ça m'a donné... je fais plus que ça depuis. Et après, je sais dessiner d'autres gens, hein, rassurez-vous. Vous étiez pas très inquiet non plus, je pense. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, donc je me sers de moi pour raconter aussi bien des fictions que des trucs autobiographiques. Et un jour, Lewis, donc pour cette série d'albums, il m'a demandé de créer un personnage. Et comme définition, pour situer le personnage, il m'a dit « C'est le capitaine du vaisseau. Point. » c'est tout.
Ah, c'est vachement cool.
Ouais. Alors, évidemment, possible. J'ai eu aucune idée. Et au bout d'un, mais je pense qu'il m'a manipulé sur ce coup, Lewis Trondheim. Genre une semaine après, il m'a dit, si tu te dessinais toi-même. Et évidemment, j'y avais pensé, ça m'avait traversé l'esprit. Donc, ok, on y va. Mais là, chaque album devait être dessiné par un dessinateur différent.
Oui.
Et donc, moi, l'idée qui m'amusait, là, c'était vraiment que mon personnage devienne un personnage, quoi. D'être dessiné par d'autres dessinateurs, quoi. Comme un personnage public. Et donc, ça m'a fait rire. Pas toujours. Des fois, c'était un peu triste, quand même. Mais ce dont je ne me doutais pas, enfin, j'aurais dû m'en douter, quand même, parce que je pensais que Lewis allait se servir de ce personnage comme d'une coquille vide. Hein. Mais non, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de faire des commentaires sur moi, sur mon personnage, et puis moi, quoi, moi.
Sur l'avatar.
Sur l'avatar et sur la personne.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé ça assez pervers, quand même. Quand j'ai réalisé la chose, je me suis dit, mais moi, j'aurais jamais osé faire un truc pareil, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un artiste, Lewis. Prendre le personnage de quelqu'un et puis commencer à s'amuser avec, faire des commentaires sur ce qu'on pense de lui, tout ça. Je trouve ça hallucinant, quoi. Je trouve ça très violent et ça m'a pas aidé à faire le bouquin, hein, vraiment. Parce que ce personnage est présent dans les 8 albums. Et après, j'ai lu les albums et j'ai vu comment il était, ce personnage, quoi. Je sais pas, j'aurais jamais osé faire ça à un copain, quoi.
T'as été manipulé. Je veux dire, ton image a été manipulée.
Mais oui, mais c'est il faut oser faire un truc pareil, quoi. J'ai pas compris comment il a pu oser me faire ça, quoi. Enfin, c'est un manque de délicatesse quand même énorme, quoi. Pourtant, on me traite souvent de gros lourds, tout ça. Je trouve ça affreusement indélicat, quoi.
Je vais enfoncer un peu le clou. Vous en avez discuté après ?
Non, j'ose pas parce que. Parce que je vais me fâcher, et puis de toute façon, on est fâché d'ailleurs. Non, mais j'ai jamais abordé la question frontalement. J'ai fait quelques allusions. Parce que je trouve ça scandaleux, quoi. J'ai pas envie de l'engueuler, vous voyez. Enfin, j'étais un peu blessé, quoi, en fait. Ça vous fait rire, vous. Pardon ? Ah oui, il faut que j'arrête de faire comme ça.
Non, c'est que c'est vrai qu'en fait...
Ah oui, Lewis va tout savoir.
Ce sont des aveux directs.
Que je sois enregistré, c'est une chose. Mais après, si je ne sais pas diffuser, on s'en fout.
C'est vrai que c'est beaucoup
plus important. L'important, c'est de ne pas diffuser. Hein. On écoutera ça après ma mort, voilà.
Et puis, attends, c'est enregistré, on peut couper les passages aussi. Délicats. En tout cas, ceci dit, l'album en lui-même que tu as réalisé, c'est quand même pas mal de planches, enfin, il y a une bonne pagination.
Ah ouais,
et surtout en plus, alors là, tu disais, tu n'aimes pas forcément les recherches de cadrage avec les petites cases, les trucs panoramiques, les machins en biais, etc., les fonds perdus et tout le bazar. Là, on est beaucoup plus dans l'album finalement traditionnel d'action que ce que tu as l'habitude de faire habituellement. En plus, il y a la couleur.
Le trait
est plus fin.
Je leur avais dit coloriste. Non, c'est pas bon.
Non, mais là, tu n'étais pas dans tes clous habituels avec cet album, en termes de dessin, de graphisme.
Ah non, on ne peut pas dire.
D'accord.
Puis en plus, tous les décors avaient été modélisés en 3D. Mais ça m'amusait. Du coup, il fallait aller chercher les décors et puis les faire tourner comme ça pour choisir son angle de vue. Mais ça, c'était plutôt marrant.
Ça peut être vachement sympa parce que ça permet d'avoir une recherche en temps réel. C'est plutôt.
Tu as essayé ?
Oui.
Ah oui. Ah, tu es auteur ?
Oui.
Ah, d'accord.
Oui, oui. Et puis, je suis graphiste au départ. En fait.
Mais oui, Olivier Cotte. Pardon.
Bah oui. Pardon. Mais c'est lui.
Pardon ?
C'est lui.
Oui, oui. Bah oui. Ça va ?
Oui, oui, oui. Ah, bah, très, très heureux de te rencontrer. Oui. Ça fait longtemps, en plus, qu'on devait se voir.
Ah bon ?
Oui, je sais pas.
Ah, moi non plus.
Donc, alors, la couleur, c'était comment ? C'était bien ?
C'était raté. Ils ont fait un essai, ils me l'ont montré pour savoir si j'étais d'accord. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, et puis ils l'ont fait quand même. Bon, il faut dire, comme j'avais quelques problèmes pour faire ce bouquin, je l'ai livré un an et demi en retard. Bon. Mais non, mais vraiment, c'est dommage la couleur qui a balancé.
Vraiment un an et demi ?
Oui, oui.
La vache.
Ah oui. Ou un an. Au moins un an, quoi. Peut-être un an et 3 mois, je ne sais pas. Je ne sais plus.
Oui, pour un
c'est vrai que du coup, j'étais, ça coinçait un peu, quoi, cette histoire de personnage. Parce que vraiment, le personnage, il est ridicule, quoi. Par moments, il se fait insulter par des femmes. Il est libidineux et alcoolique, ce personnage. Ce que je ne suis absolument pas. Enfin, un petit peu, quoi. Mais là c'est grossier, quoi. Et puis, mais là, en vous en parlant, je ne comprends pas comment il a pu oser, quoi. C'est hallucinant de faire ça. Mais, parce qu'à l'époque, il prétendait qu'il était mon ami, quoi. C'est quand même très étrange, quoi. Mais ce type est un peu bizarre, hein. Méfiez-vous, hein, si vous dit que vous êtes son ami, il peut vous faire des plans comme ça, quoi. Je trouve ça hallucinant. Puis en plus, c'est un artiste, il sait ce que c'est, un personnage, quoi. Enfin, je sais pas. Ben, il faudra lui demander. Non, mais je pense qu'il voulait régler des comptes, quoi, quelque part. Mais tout en faisant semblant que c'était pour rire et que... Mais en même temps, c'est très violent.
Ceci dit, il est très pince sans rire.
Hein. Il est plus pince que sans rire, je trouve.
Oui, bon, enfin,
finalement.
Il a un grand sens de l'humour.
Tu trouves ? Parce qu'il y a un gag dans ce bouquin. Il y a un moment, donc mon personnage, il demande à une fille « Dites-moi quelque chose que vous êtes le seul à savoir » ou un truc comme ça. Et il y a une des filles qui lui fait « T'es un gros connard. » Et bon, c'était censé être drôle. Et j'ai changé ce truc. Finalement, la fille, elle lui dit « Tu es un être merveilleux. » Donc j'ai changé ça. J'ai changé « gros connard » en « être, un être merveilleux ». Et là, mon personnage s'étonne qu'il soit traité d'être merveilleux. Et là, elle lui explique que oui, comme tout le monde le prend pour un gros connard, personne n'est au courant qu'en fait, il est bien, un être merveilleux. Bien. Je trouvais ça plus drôle que le truc de Lewis, quoi. Ouais, c'est pas difficile d'être plus drôle que Lewis.
Il y a un autre truc, c'est que sur cet album, j'imagine que tu as dû faire un pré-découpage... Enfin, tu as dû le storyboard et à donf parce que pour que ça rentre dans la pagination, que ce soit nickel, etc. Sachant qu'en plus, c'était assez. Enfin, c'était plus complexe à mettre en place que d'autres. Mais la préparation a dû être un peu plus difficile que les autres albums que les albums que tu dessines habituellement.
J'ai pas écouté la question.
C'est pas grave, je vais la recommencer.
Qu'est-ce qui était plus difficile ?
Ouais, en fait, la préparation, le pré-deck, le storyboard.
Non, mais c'est, oui, donc j'avais bien entendu. Non, Lewis, il a ça dans la peau, vraiment, la narration en bande dessinée.
Ça, c'est
en fait,
clair,
il m'a livré le scénario déjà découpé, en fait.
Avec du crowbar pour chaque planche ?
Oui, c'est ça.
Ah, d'accord.
Je crois que c'est sur les dernières pages, genre les 20 dernières pages, peut-être qu'il s'est juste contenté de me donner le dialogue. Mais chez lui, c'est complètement naturel, le langage en bande dessinée.
Bah, il dessine très, très vite.
Oui, il dessine très vite. Et puis c'est impeccable. Quoi. C'est vraiment,
il sent vachement bien la narration BD, ça, ouais. C'est très clair.
Ah, pour ça, il est intouchable et il est fort. Ouais.
Ouais, bah.
Et il n'y a rien à bouger. Quoi.
Non,
c'est hyper solide, c'est hyper efficace.
Bah, c'est pour ça aussi qu'il peut se permettre de faire des BD extrêmement longues et vite. Ouais.
Oui, il maîtrise très bien le langage de la BD. C'est un maître.
Quelque part, oui. À ce niveau-là, en tout cas, oui.
Sacré connard.
Ah, merde. Ah, pourtant, j'avais réussi à redresser la barre.
Il y en a qui sont d'accord.
Ah, c'est pas facile, hein, ce métier de modérateur. Bordel. Alors, du coup...
Vous demanderez autour de vous. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi.
Alors, un truc, c'est que tu as aussi travaillé sur un court-métrage, Après moi.
Oh, c'était travailler, c'est beaucoup dire. Hein.
Bon, collaborer.
Participer au scénario, on va dire.
Voilà. Mais ceci dit, tu n'as jamais voulu aller vers l'animation ou le cinéma, juste comme ça, une ou deux fois pour voir, toi ? Pas du tout ?
Non. Ah non, c'est trop de travail, l'animation. Non, puis,
non mais ça, tu peux faire par des petites mains spécialisées. Oui, mais
justement,
il
faut travailler avec des gens, tout ça. C'est compliqué. Moi, ce qui me plaît dans le métier de dessinateur, c'est qu'on vous fout la paix. Quoi. On est chez soi, puis on travaille.
En robe de chambre ?
À poil, oui. Le plus possible à poil. Non, mais vraiment. Hein. Et voilà, quoi. Non, une équipe de cinéma, trouver un producteur... Les acteurs.
Donc je pense que la réponse est non. Oh du non, coup, pitié, non, t'as quoi. Pas tellement envie.
Ah non, et puis il faut convaincre tous ces gens. Moi, j'ai vu, vous savez, des fois, il y a des films, on se dit, mais comment quelqu'un peut se dire, tiens, c'est une bonne idée de faire ce truc, quoi. Moi, j'ai vu comment ça se produit. J'ai un copain, Raphaël Metz, avec qui je suis en train de faire un livre, justement, en ce moment, qui a bossé sur un scénario, et ça a duré, mais je ne sais pas, hyper longtemps, avant qu'il trouve le producteur pour que ça finisse par faire un film, quoi. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle personne qui donnait son avis sur le scénario. Et à l'arrivée, on a un truc qui n'a plus aucune substance, qui ne veut plus rien dire.
Ouais, j'avais vu ça plusieurs fois. Et alors, en plus, le problème, c'est que l'agonie est très longue, parce que ça peut durer 4-5 ans, pendant lesquels le scénario, en fait, se fait progressivement râper. Et il ne reste plus rien à la fin, sauf que nous, on est épuisés. En plus, il y a eu du fric de mis en jeu, parce que bon, à chaque fois, il faut représenter.
Oui, puis il y a un moment, on ne peut plus revenir en arrière, parce que
parce qu'il y a de
l'argent engagé. Oui.
Et on finit épuisé. Et puis
on finit par un objet qui ne veut plus rien dire. Ouais. C'est terrible.
Et en fait, ça dégoûte complètement. Mais ça, c'est pour les gros projets du type long métrage. Le court, ça va. Ouais. Mais les séries ou le long, on se retrouve très rapidement avec ce type de... De destruction très progressive.
Oui, c'est ça. Ça doit faire mal au cœur. Hein.
J'en connais qui, que j'ai vu au bout de 4-5 ans en train de s'accrocher parce qu'en fait, c'est comme à la roulette. On se dit, là, j'ai trop perdu, maintenant, il faut que je continue.
Ouais.
C'est vraiment ça.
Ouais.
Et ils vont jusqu'au bout, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça les démolit encore davantage parce qu'en fait, il y a un moment, quand on est dans cette espèce de couloir de la mort, on devrait prendre conscience qu'on va aboutir nulle part. Là, c'est trop tard, c'est fini.
Après, on est responsable aussi des gens qui sont embarqués, quoi. Si on arrête un projet qui est à ce stade-là, il y a des gens qui vont se retrouver le bec dans l'eau, quoi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui doivent finir leur projet à contre-cœur, quoi, parce qu'ils sont obligés, quoi. Effectivement. Ce court-métrage, d'ailleurs, elle est là. C'était bizarre parce que c'était un truc en 3D, mais avec ce style-là. Donc c'était pas mal foutu, mais en tant que dessinateur, quand on regarde un film qui est censé reproduire vos images, c'est insupportable, quoi. Parce qu'à chaque fois, on a envie. Mais non, pas là, le trait. Mais oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Enfin, c'est vraiment.
En même temps, dans le mouvement, on est obligé de changer des trucs parce que sinon, ça ne passe pas. La reproduction pure du graphisme dans les différentes phases ne
fonctionne
pas.
Je suis bien d'accord, mais c'est insupportable. Je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire, mais ça me fait du mal.
Il faut des déformations qui, effectivement, ne fonctionnent pas en fixe, mais dans la continuité, ça...
C'est insupportable.
Comme on est aux Utopiales, l'ASF, pour toi, c'est quoi ?
Vraiment, t'es dur, là.
Ouais.
L'ASF, c'est merveilleux, c'est super. J'en ai beaucoup lu quand j'étais petit.
Ah oui, quoi ?
Et puis, beaucoup. Non, j'en ai lu. Alors, Van Vogt,
oui.
J'ai absolument rien compris. Le monde des noms A.
Celui qu'il faut lire au moins 10 fois pour réaliser qu'on ne le comprendra jamais.
Alors, je ne l'ai pas, je l'ai lu qu'une fois. Et je crois que j'ai tout de suite compris que je ne comprendrai jamais. Donc, je suis assez fort, je suis assez fier de moi.
Moi, j'ai lu plusieurs fois parce qu'on m'a toujours dit que c'était formidable et que c'était dommage que j'ai rien compris. Donc, j'ai continué. Je l'ai lu plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça va, j'ai arrêté.
Ouais. C'est chiant, c'est très chiant.
C'est d'un pénible, absolu. J'ai jamais compris, j'ai pas jamais accroché à ce roman.
Alors, j'ai beaucoup aimé Dune, mais j'ai lu ça dans ma jeunesse. Puis, c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber, mais je continue. Je trouve que c'est quand même un genre qui passe bien au cinéma. Faut bien avouer.
Et en BD ?
Et en BD, oui, j'en ai fait aussi d'ailleurs. Mais j'avais le projet d'adapter Fondation, la série d'Asimov.
Oui.
Mais comme c'est un gros morceau, je me suis dit, c'est quand même... j'avais 14 ans. Hein. C'est quand même un gros morceau, c'est compliqué à adapter. Donc je vais faire un truc très simple, je vais tout dessiner de A à Z. C'est-à-dire... Asimov raconte qu'une fusée atterrit sur une planète. Je vais dessiner une fusée qui atterrit sur une planète, qu'il y a quelqu'un qui sort de la fusée. Je vais dessiner pas à pas, comme ça, chaque truc.
Et Harry Seldon aurait eu ta tête de Kilofer.
Alors non, à l'époque, je ne me dessinais pas encore. Mais j'ai fait, je crois, une demi-page. Puis je suis passé à autre chose.
Ah, c'est curieux.
À l'époque, je faisais que des premières pages. Parce que j'ai beaucoup lu des trucs de super-héros quand j'étais ado. J'ai commencé par ça, en fait. J'ai commencé par lire ça en BD. Et j'étais déjà très mégalo et je faisais des premières pages d'histoire. C'est, les premières pages de comics étaient toujours gaulées comme ça, avec le nom du dessinateur, le nom du scénariste, le nom de l'encreur, le nom du lettreur, même des fois.
Et les couleurs.
Et donc moi, je faisais la même chose, mais bon, bah, c'était écrit partout, Patrice Kilofer, sur une idée de Patrice Kilofer, Patrice Kilofer au dessin. D'après tandis Patrice que l'ancrage Kilofer. Est de Patrice Kilofer, qui s'est occupé également, le même Patrice Kilofer, du lettrage. Et je continue à l'heure actuelle, donc dans mes principaux ouvrages, il y a mon nom. En fait, l'ambition, c'était de mettre deux fois mon nom sur la couverture, de le mettre une fois dans le titre et une fois en tant qu'auteur. Mais ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Parce que j'ai un livre qui s'appelle 676 apparitions de Kilofer, un autre qui s'est appelé Kilofer tel qu'en lui-même enfin, et un troisième qui s'appelle Kilofer en chair et en fer, celui dont, qui est extrait du livre que nous avons fait avec Dominique ici présent. Mais mon idée, c'était de faire Kilofer tel qu'en lui-même enfin, Kilofer en chair et en fer, d'avoir deux fois son nom sur la couverture. Personne ne l'a fait avant moi, et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait.
Il n'y avait pas eu un Moebius par Moebius, ou un truc comme
Inside
ça.
Moebius.
Ouais. Non mais oui, hein, où on répétait Moebius deux fois. Moebius. Ouais.
Ah, il l'a fait. Ben voilà.
Il me
ben,
semble. Il a tout fait, mais à vérifier. T'as beaucoup travaillé pour la presse aussi. On n'en a pas parlé, mais Libération, Le Monde, La Vie. Ça change quoi de travailler pour alors, je ne parle pas seulement pour de l'éphémère entre guillemets, mais en fait pour des avec des contraintes de bah, de parution, de rendu, de dessin, de contenu, de ton, etc.
Ça m'a beaucoup amusé.
Parce que tu as aussi créé un magazine toi-même.
Ouais.
C'était avec Jean-Yves Dutoux. C'était le
pas Jean-Yves Duo.
Duo, pardon. Pas un seul.
Pas un seul. C'est plutôt c'est trois livres en fait. Mais ça a un peu une tête de revue. Mais la revue qu'on a vraiment créée, qui existe encore, dont on ne s'occupe plus, qui maintenant est coaché par Quentin Faucompré, ça s'appelle Mon Lapin Quotidien. Un grand format, je vous conseille fortement. Grand format, genre Canard Enchaîné, 12 pages. Et c'est une réussite, je trouve, dans la mesure... Il y a beaucoup de revues qui ont essayé de traiter sur un pied d'égalité, littérature et images, mais ça n'a jamais trop marché. Mais là, je trouve que c'est le cas. Là, je trouve qu'on y est, quoi. Donc c'est plein d'écrivains formidables comme Éric Chevillard, Hervé Le Tellier qui était là hier ou avant-hier, Raphaël Meltz, Paco Mtienman, Denis Robert, et des poètes comme Charles Penquin. C'est plein de bandes dessinées et c'est plein d'illustrations, le tout sur un grand format comme ça, et c'est le bordel, quoi. On a l'impression qu'on a pris des mots et des images, qu'on a secoué le truc.
C'est quoi, c'est la mise en page ou l'urgence qui t'intéresse dans ce type de publication?
Les deux.
Ouais.
Et en tant qu'illustrateur, le côté urgence, quand on travaille pour Libération, qu'on doit faire le dessin dans la journée, qu'on doit le rendre dans 3 heures, c'est très excitant, quoi. Puis c'est très excitant aussi parce qu'on voit son dessin paraître le lendemain. Ça va très vite, quoi. Mais après, c'est oublié tout aussi vite. Hein.
Ah oui, c'est pour ça que je disais éphémère tout à l'heure. Parce qu'on pense toujours BD, surtout en Europe et surtout en France, le franco-belge bien cartonné, 48, etc. Mais en fait, c'est un cas particulier de la bande dessinée mondiale.
C'est vrai que les Américains ne sont pas du tout comme nous. Hein.
Bah, les Japonais non plus.
Ah ouais. Ouais. Je me souviens, Julie Doucet, quand on a découvert Julie Doucet, on a tout de suite voulu faire un livre de Julie Doucet, ça nous semblait normal.
Oui,
mais c'était le début de l'assaut, quoi.
Mais c'est pas la philosophie.
Oui, on s'en est rendu compte, parce qu'elle, ça la gênait beaucoup, quoi. Elle trouvait que c'était trop tôt d'avoir un livre, un vrai livre.
Mmh.
Donc elle a commencé par faire quelques comics, et puis après, elle a accepté qu'on fasse un livre. Et nous, on ne comprenait pas trop où était le problème, quoi.
Il nous reste 6 minutes. Je vais vous donner la parole si quelqu'un veut, dans la salle veut s'exprimer. Posez une question.
C'est mon micro.
Il y a un micro sans fil qui va arriver.
Avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le gaufrier qui a un rythme assez particulier, un rythme presque cinématographique, je me demandais si justement au niveau de vos... de vos influences et de vos inspirations passées comme présentes, vous aviez des choses qui étaient aussi cinématographiques et visuelles, cinématographiques que de bande dessinée.
Bah oui, Oui, je regarde plein de... Je regarde tout le temps des films, tout le temps, tout le temps. Mais alors, vous voulez, vous voudriez peut-être savoir lesquels ? Je ne sais pas. Non, mais j'aime vraiment... je suis très éclectique. Et puis, j'ai... j'aime pas dire j'aime ceci et cela, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange. Non, puis surtout quand on travaille, on ne se dit pas tiens, je vais faire comme machin. Ou que... Il faut laisser les choses venir toutes seules, quoi. Après coup, on peut se dire tiens, ça ressemble à ceci ou cela, mais moi, j'y pense pas en travaillant, quoi. Il peut m'arriver de faire des références, mais c'est de l'ordre du clin d'œil. Et puis ça. C'est plutôt de l'ordre de la narration si ça s'intègre dans l'histoire, quoi. Mais sinon, oui, j'ai horreur des œuvres qui sont basées principalement sur des références. Ça, c'est vraiment un truc en art contemporain, par exemple. Ça dégueule de références. Si il n'y a pas au moins une dizaine de références, c'est pas valable. Enfin bon, ça me dérange un peu en art. J'aime bien, je préfère vraiment la spontanéité. J'aime bien faire. En même temps, non, je dis des conneries, en fait. J'aime bien aussi quand c'est bien travaillé, mais... Non, j'aime bien quand le dessin, il fait émerger des choses qu'on n'avait pas prévues, quoi, surtout. Donc, c'est pour ça que j'aime... Même si je réfléchis beaucoup avant de dessiner, c'est, je réfléchis plastiquement, quoi. Je ne réfléchis pas au discours. Après, quand une signification émerge, ça, j'aime beaucoup. Une signification ou un artiste ou... J'arrête là.
Une autre question.
Bien, deux questions.
Ce qui devrait nous amener à 30, et donc après on...
30 questions ?
Non. Non, 30 minutes.
Vous travaillez en grande majorité en noir et blanc, il me semble, et vous avez dit ne pas être satisfait de la couleur faite sur Infinity 8. Est-ce que sur ce projet-là, vous aviez des envies, des idées ? Est-ce que vous aviez un peu pensé la couleur ou pas du tout ?
Non, pas du tout, non, non. Non, non, j'étais ouvert à toute proposition, sauf celle qui existe. Non, mais je trouvais ça pas bon, Je trouve que voilà le. Mais je crois que la coloriste, d'ailleurs, en plus, ils ont oublié de mettre son nom dans le bouquin. C'est dégueulasse.
Ça, c'est un truc classique et c'est très agaçant. Hein.
Putain, oui.
Parce que les coloristes, c'est vraiment les enfants pauvres de la BD.
Ouais. Je crois que c'était genre son premier livre en tant que coloriste ou son deuxième peut-être. Je crois qu'elle avait fait des trucs jeunesse avant. Enfin, je trouvais que ça n'allait pas, quoi. Mais bon. Je trouve ça bizarre de me demander mon avis pour pas le respecter après, c'est tout. Non, mais c'est dommage parce que la couleur, ça peut casser complètement un dessin. Hein. Une mauvaise mise en couleur, ça fout en l'air une composition, une narration.
Tu parlais de Chaland tout à l'heure. Moebius n'était pas un mauvais coloriste hein, parce que c'était.
Il l'a mis en couleur.
Mais les premiers incals, c'est Chaland qui l'a mis en couleur. Et pourtant, Moebius ne peut pas dire que les couleurs d'Arzac ce soit mauvais. Hein. Il savait ce que c'était que de la couleur, mais il a quand même fait appel à quelqu'un d'extérieur.
Ouais, mais là c'est le coloriste de luxe quand même.
Oui, mais ils sont bien. Hein.
Bah oui, oui.
Il y avait une autre question là.
Je reprends ce que vous aviez dit tout à l'heure pour le cinéma, que c'était embarrassant pour vous, vu qu'il fallait convaincre des producteurs. Mais d'un autre côté, quand on est dans l'édition, il faut aussi convaincre l'éditeur par rapport à notre projet.
Moi, les éditeurs se battent pour publier du Kilofer.
En fait, c'était un peu ça ma question. Comment vous faites pour publier quelque chose, pour convaincre facilement quelqu'un ?
Mais j'ai pas à convaincre, tout le monde est convaincu. Non, je me bats pour... je suis un peu comme une star, vous savez, sur laquelle se jetteraient les filles dans la rue. Elle m'admire, elle me tue, elle s'arrache ma vertu. Moi, je dois repousser les éditeurs. Comme ça. Laissez-moi tranquille, j'ai pas que ça à faire. Non, mais je plaisante, mais pas vraiment, en fait. Ben, longtemps, j'ai été publié par moi-même. J'ai été publié par l'association. Et puis, en fait, mon but, ça n'a jamais été d'être un auteur de BD, quoi. Enfin, de n'être que ça. Il se trouve que j'aime beaucoup la bande dessinée, j'aime bien en faire. Mais longtemps, l'illustration pour la presse, ça suffisait à mon bonheur. Hein. Quand je faisais une... Mais c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Quand je fais une bande dessinée, quand je fais un livre de bande dessinée, c'est pas pour vivre. D'ailleurs, ça tombe bien parce que vu ce que je vends, si je faisais ça pour vivre, je serais obligé de faire autre chose. C'est soit par amitié, parce que c'est un copain qui me demande qu'on collabore ensemble, soit c'est pour m'amuser, parce que j'ai une idée que je trouve bonne, et voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai jamais eu à convaincre. Alors, ça s'est trouvé une fois dans ma vie où je suis allé voir. Ben, c'était avec Lewis Trondheim, en fait, au tout début de l'association. On avait un projet de truc de science-fiction, d'ailleurs. Et je voulais faire vraiment de la grosse science-fiction, bien avec des robots, des monstres, des vaisseaux spatiaux. Et Lewis était chaud. Et on avait fait 2-3 pages comme ça, et on a démarché les éditeurs. C'est la seule fois que j'ai fait ça. Et d'ailleurs, on n'a pas été édité. Mais Lewis, il commençait déjà à intéresser les éditeurs. Alors lui, bon, il est parti. Et sinon, bah, c'est l'association. Bah, aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression par exemple, là, je suis fâché avec l'association, je suis passé chez Casterman. Ils avaient l'air super contents que je sois chez eux. Alors, à mon grand étonnement, parce que je sais que je vends très, très peu. Mais en fait, je crois que j'ai une espèce de réputation maintenant. Et il y a des gens qui trouvent que c'est bien ce que je fais. Et voilà. C'est bien pour finir un truc. C'est bien ce que je fais.
Voilà. Ben, merci beaucoup pour être venu. Et merci pour cette table ronde.